Souvenirs de voyage en Suisse et en Savoie par Monsieur le Vicomte de Melun, publié en 1864 à Paris. Il y a déjà bien longtemps de cela. J'étais jeune. J'avais du loisir devant moi, de la liberté et un extrême désir d'employer les vacances autrement qu'à visiter mes voisins et à poursuivre les perdrix et les lièvres. Un matin, je pris la diligence de Genève. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'en subis les chaos et j'avalai la poussière que soulevaient ces 4 roues. Car en ces temps reculés et presque sauvages, les chemins de fer n'avaient pas encore mis les frontières de France à la porte de Paris. J'arrivais enfin sur les bords de ce beau lac bleu, dans lequel se mirent tant de coquettes villas, tant de jolies montagnes, et par-dessus tout, la tête éclatante du Mont-Blanc. Le lendemain, j'étais sur la route de Chamonix, le sac sur le dos et à la main un long bâton de sapin, terminé par une pointe de fer et surmonté d'une corne de chamois, heureux de marcher seul et me promettant bien de ne rentrer dans les lourdes maisons roulantes qu'après avoir parcouru la Suisse et la Savoie, admirer toutes leurs merveilles et dérober tous leurs secrets. Chamonix et ses alentours me prirent 2 semaines. Je traversai à pied sec sa mer de glace, dont les vagues semblent avoir été arrêtées par le froid au moment d'un orage. J'aperçus, sur la parole de mon guide, un troupeau de chamois paissant, disait-il, au haut d'un pic, des herbes assez dures pour percer le rocher. Je suivis d'une fenêtre de l'hôtel de Saussure une ascension au Mont-Blanc dont les héros semblaient des mouches ou des fourmis, marchant les unes après les autres sur un mur de neige. Et j'admirai surtout aux rayons du soleil de midi les blocs de cristal bleu du glacier des Bossons qui descendent presque dans la vallée, se mêler aux moissons et aux fleurs. Cette première excursion consciencieusement accomplie, je songeais à me diriger vers Aix. Malgré ma passion d'isolement et mes projets de sauvagerie, je me sentais déjà l'envie, après cet essai d'existence montagnarde, de retrouver un moment les douceurs et le repos de la vie civilisée. Les eaux d'Aix ont, sous ce point de vue, une réputation européenne. La grande route pouvait m'y conduire, mais j'avais honte de ses facilités, et sa poussière me paraissait indigne d'un voyageur alpestre. Je choisis donc pour mon voyage une belle et haute montagne, qui s'élève comme une barrière entre Aix et la vallée de Sallanches. Là, aucun glacier, aucune neige, pas un rocher, pas même un arbre ne faisait obstacle à la course d'arrêter la vue. Tout était gazon, fleurs et verdure. Mais le voyage n'en était pas plus facile, car ces charmants tapis verts, ces pentes si gracieuses et si fleuries, aboutissaient à de furieux torrents dont on entendait gronder le sourd et lointain murmure. Et le moindre faux pas vous aurait fait glisser doucement et sans aucune chance d'arrêt jusqu'aux abîmes. Dans cette course hasardeuse, je fus témoin de l'influence qu'exerce, même sur le corps, la connaissance du danger, et je pus m'expliquer le singulier phénomène du vertige. À un des endroits les plus glissants et les plus périlleux, j'avais devant moi une troupe d'écoliers en vacances. Ils couraient sans broncher sur les arêtes de ces pentes, les descendaient et les remontaient au galop, et se plaisaient à suivre en sautant les petits sentiers que tracent les chèvres sur le bord des précipices. Ils mettaient à ce jeu toute l'ardeur, tout l'entrain, toute l'insouciance de la jeunesse, et aucun d'eux, en courant de toutes ses forces, ne chancelait sur ce mobile terrain. Leur guide était resté en arrière. Dès qu'il les aperçut, il frémit de leur situation, leur ordonna du geste et de la voix de s'arrêter, et, les ayant rejoints, leur fit comprendre les difficultés et les dangers de la route, et la nécessité de marcher lentement et avec d'extrêmes précautions. À peine eut-il fini que la troupe, tout à l'heure si pleine d'audace et de dextérité, ne trouva plus la force de faire un pas. Les jambes se dérobaient, les pieds refusaient leur service. Il fallut que le guide prît l'un après l'autre chacun de ces jeunes effrayés et lui fit traverser, appuyé sur son bras et presque porté par lui, les trois passages où, une minute avant, tous s'élançaient en gambadant. Pour moi, je m'en tirais sans chute et sans vertige, grâce à mon bâton ferré, cette providence des touristes, et j'arrivai le soir même à ma destination. La charmante petite ville d'Aix renfermait une multitude de malades, venus de tous les coins de l'Europe, pour se guérir de l'ennui, de la solitude et de la peur de passer un été tout entier sans monde et sans plaisir. Ils étaient en pleine cure et se traitaient surtout par les promenades sur le lac du Bourget, le jeu, les bals, les concerts, le spectacle, par cet ensemble de remèdes puissants qui donnent aux eaux une saveur particulière et exercent une si heureuse influence sur les santés élégantes et les tempéraments à la mode. Les hôtels refluaient de baigneurs. Aussi, je me contentais d'une toute petite chambre que je louais pour une semaine dans une très modeste maison bourgeoise. Le prix de la table et le logement n'étaient pas trop en désaccord avec le principe d'économie que j'avais adopté dès le début de mon voyage. Car mon père, en me disant adieu, ne m'avait tracé aucun itinéraire ni fixé aucune date à mon retour. Seulement, me mettant 1000 francs dans la main, « Mon ami, avait-il ajouté, tu reprendras le chemin du logis lorsqu'il te ne restera plus que l'argent nécessaire pour payer ta place à la diligence de Paris. » J'avais donc résolu d'être économe et presque avare pour être le plus longtemps possible en voyage. Mais comme dès le premier jour, je retrouvais à Aix des amis de ma famille, fort bien placés dans la haute société des eaux, ils m'engagèrent à venir passer toutes mes soirées au salon, me présentant à l'élite du monde élégant, et j'eus le droit de prendre part à tous les plaisirs et à toutes les réunions de la bonne compagnie. Le reste de la semaine fut employé à des excursions plus pittoresques et moins dangereuses. Je me promenais en bateau sur le lac, au clair de la lune, avec accompagnement de barcarolles. J'escaladai la Dent du Chat, je suivis les traces de Lord Byron et de Lamartine sur les bords qu'ils ont si harmonieusement chantés. Je visitai Bellecombe, ces tombeaux des princes de Savoie qu'ils viennent d'échanger contre la royauté d'Italie. Et je n'oubliai pas Ripaille, ce refuge d'un antipape, où il alla dans sa solitude se consoler des mécomptes de son ambition et qui a enrichi la langue française d'une expression faisant plus honneur à l'appétit de ce fameux successeur de Saint-Pierre qu'à ses mortifications et à son repentir. Mais toutes ces visites mondaines en jolie barque, en char à bancs et en brillante compagnie me fatiguèrent bientôt. Je ne voulais pas qu'Aix devienne pour moi Capoue, et arrêta ma marche à travers les Alpes. Aussi, la semaine achevée, j'attendis à peine le lever du soleil pour reprendre mon bâton ferré, endosser mon sac de voyage et gagner un chemin roide, étroit et peu fréquenté qui devait, après avoir sauté par-dessus 2 ou 3 montagnes, me faire pénétrer dans les parties les plus agrestes et les plus sauvages de la Savoie. Je ne puis dire ma joie à mesure que, m'élevant au-dessus de la plaine, je voyais s'abaisser et bientôt disparaître les monuments, les hôtels, les maisons de la ville que je venais de quitter. Je ne pouvais me rassasier de l'air pur de la montagne, de l'odeur basalmique des bruyères et des sapins. Je cueillais les fleurs roses des rhododendrons. Je grimpais comme une chèvre sur toutes les pointes de rochers. J'avais comme une ivresse de me sentir seul et libre en présence de cette nature vierge qui semble échapper à la domination de l'homme et conserver encore intacte la physionomie de la création primitive et l'empreinte de la main de Dieu.